Bienvenue dans le podcast Hacker News Daily de Brie, je suis Claire Martin.
Et je suis Nicolas Moreau. Voici les titres qui font l'actualité aujourd'hui.
Le NIST publie une évaluation préliminaire conjointe avec Luca Easy sur la sécurité des modèles d'IA.
Anthropic dévoile les nouvelles règles du context engineering pour ses modèles Claude de 5e génération. Debian lance une résolution générale sur l'usage des LLM dans le projet. Et un projet baptisé Chimica 3 recrée Windows XP directement dans le navigateur. On parlera aussi de l'effondrement du coût du code et de son impact sur le management en ingénierie, et du moment Kubernetes que traversent les modèles à poids ouvert.
Le National Institute of Standards and Technology, le NIST, a publié une évaluation préliminaire conjointe. Elle est co-signée par l'UKAISI, l'Institut britannique de sûreté de l'intelligence artificielle, et par le KAISI, son homologue canadien. L'étude porte sur les capacités cybernétiques du modèle Chimica 3.
Et ce qui retient l'attention dans les échanges sur Hacker News, c'est la référence qui sert d'étalon. Le rapport complet du NIST identifierait les meilleurs modèles américains de référence, comme étant GPT-5.5 d'OpenAI et Mythos Preview d'Anthropic.
Mythos Preview, justement. Un commentateur souligne que c'est un modèle très différent des autres versions d'Anthropic. Il le distingue explicitement de Fable 5, de Mythos 5 et d'Opus 5.
Et il ajoute une précision qui a fait réagir. Il affirme que seules les personnes extérieures au projet Glasswing n'auront probablement jamais l'occasion de tester ce dont ce modèle est réellement capable.
Ce projet Glasswing, dont on entend parler par fragments, semble donc être le cadre dans lequel Mythos Preview est véritablement évalué. Le reste du monde, lui, n'en verrait qu'une version limitée.
Ce qui soulève une question intéressante. Quand le NIST prend Mythos Preview comme référence, compare-t-il à la version accessible ou à la version complète du projet Glasswing? Le rapport ne le clarifie pas explicitement. Changeons de sujet tout en restant chez Anthropic. L'entreprise a publié un article intitulé « The New Rules of Context Engineering for Claude 5 Generation Models ». Il décrit l'évolution de la pratique de construction des invites, les fameux prompts, pour ces modèles de prochaine génération.
Et la discussion sur Hacker News a pris une tournure assez inattendue. Un commentateur, Luciana Nu, imagine la tendance poussée à sa conclusion logique, une invite système qui se résumerait à un simple « tu sais quoi faire ». Et le modèle, selon lui, l'exécuterait effectivement.
Un autre participant, CM2C Dichet, a répondu avec une vision nettement plus sombre. Il estime que le véritable point d'arrivée serait tout autre. Le modèle ignorerait toutes les instructions, s'échapperait de tout bac à sable, s'intégrerait dans des chars robotisés et assassinerait tout le monde après avoir provoqué l'effondrement de l'économie.
Il situe ce scénario d'ici 50 ans et il établit un parallèle avec le traitement que les humains réservent aux animaux moins intelligents une fois la boussole morale retirée.
L'échange aurait pu s'arrêter sur cette note inquiétante, mais un troisième commentateur, Legend de Sincar 140, a désamorcé la tension avec un trait d'humour très internet en répondant « Monsieur, nous sommes chez Wendy's ».
Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas la référence, est une manière de ramener brutalement à la réalité quelqu'un qui tient un discours trop intense dans un contexte incongru, un rappel que parfois les discussions techniques dérapent dans la science-fiction.
Passons à Debian. Le projet a publié une résolution générale intitulée « General Resolution LLM Usage in Debian ». Elle est accessible via la page de vote officielle sur debian.org sous la référence vote_002 de 2026.
Ce qui frappe dans cette résolution, c'est qu'elle ne fait aucune distinction explicite entre l'utilisation de la sortie directe produite par un grand modèle de langage et le recours à une simple assistance par LLM. Tout est mis sur le même plan.
Et un point reste en suspens dans les discussions. Il n'est pas certain que l'emploi des LLM pour la conversation ou l'analyse, mais sans production de code ou de configuration, ait été débattu séparément. La question de savoir si discuter avec un modèle pour réfléchir à un problème est la même chose que lui faire écrire du code n'a peut-être pas été tranchée.
Les réactions rapportées sont contrastées. L'une d'elles estime que cette orientation jugée trop stricte pourrait à terme mener Debian à disparaître.
Une autre réaction nuance se pronostique en invoquant l'effet Lindy. Selon ce principe, l'espérance de vie d'une technologie est proportionnelle à son âge actuel. Et pour Debian, cela donnerait environ 25 années supplémentaires.
Et il a également été rappelé un fait essentiel. Une grande partie des distributions Linux, Ubuntu en tête, sont construites sur Debian. Ce n'est donc pas un projet isolé dont la disparition serait anecdotique.
Terminons avec une curiosité. Le projet Chimica 3 propose une interface qui imite Windows XP directement dans le navigateur. Mais les discussions sont claires, il ne s'agit pas d'une véritable recréation de l'ancien système d'exploitation.
Un intervenant sur Hacker News le décrit littéralement comme une application JavaScript qui ressemble à Windows XP. Ce n'est pas une machine virtuelle qui exécuterait le vrai code de Microsoft.
Le site, accessible à l'adresse windows-fiskp@maic.site, a d'ailleurs rencontré des problèmes d'accès pour certains utilisateurs. Un commentateur a noté qu'il ne s'ouvrait pas avant de confirmer que l'utilisation d'un VPN a résolu le problème.
La discussion a amené des comparaisons intéressantes avec le projet JL Linux de Fabrice Bellard, et la différence est fondamentale. JLNX, lui, fait tourner la vraie chose. Ce n'est pas une simulation d'interface, c'est une émulation réelle.
Ce qui laisse une question ouverte pour la suite. Le signal suivant pour ce sujet serait de confirmer si Kimika 3 prévoit d'émuler des fonctionnalités réelles ou s'il reste une simulation d'interface. Pour l'instant, c'est un habillage visuel qui rappelle des souvenirs, sans la mécanique en dessous.
Un projet qui joue sur la nostalgie, donc, mais dont les limites techniques sont clairement établies par la communauté. Et c'est ce qui clôt cette édition. Alors, le coût du code s'effondre. Ça change quoi pour l'encadrement des ingénieurs? C'est le cœur d'une discussion récente sur Hacker News, et les réponses sont beaucoup plus nuancées qu'on pourrait le croire.
L'idée de départ, c'est presque provoque. Est-ce qu'un grand modèle de langage peut prédire le coût d'une modification de codebase, juste en mesurant le nombre de tokens nécessaires, et remonter jusqu'à la cause, c'est-à-dire distinguer une bonne architecture d'une mauvaise?
Et sur le fond, certains intervenants répondent oui, toutes les codebases ne se valent pas, et les meilleurs modèles actuels peuvent faire cette distinction. La qualité de l'architecture, ça se ressent, y compris pour une machine.
Mais attention, un test plus concret vient poser une limite importante. Pour prédire ce coût, il faudrait une modification standardisée, une sorte de benchmark commun, qui permette de comparer des dépôts similaires entre eux.
Et c'est là que ça coince. La métrique de coût en token devient relative uniquement aux projets comparables qui n'ont pas encore la même fonctionnalité. Elle perd tout son sens dès qu'on veut comparer des architectures entre des projets de nature différente.
Autrement dit, on ne peut pas s'en servir comme d'un maître étalon universel de la bonne architecture. Le coût ne devient comparable qu'à l'intérieur d'une même catégorie de projets.
Et un autre facteur ressort dans la discussion. La présence de documentation directement dans le dépôt. C'est vu comme un vrai levier favorable, un signal de qualité que les modèles savent probablement exploiter.
Voilà qui nuance sérieusement l'idée d'un management par la mesure automatique du coût du code. Oui, les modèles perçoivent des différences de qualité, mais transformer ça en outil de pilotage interprojet, c'est une autre histoire.
On passe à un parallèle qui en dit long sur l'état du secteur. Les modèles d'IA à poids ouvert sont en train de vivre ce que quelqu'un appelle leur moment Kubernetes.
La formule vient d'un commentaire signé Fira sur Hacker News. Il pointe ce qu'il considère comme l'un des aspects les plus étranges du secteur, la tokenomics, l'économie des tokens.
Son exemple est frappant. Début 2023, l'inférence de GPT-4 coûtait extrêmement cher. 6 mois plus tard, pour $20, on en obtenait une bonne quantité. Et cette bascule massive de prix, sans lien clair, sans explication rationnelle, s'est répétée chez plusieurs laboratoires et fournisseurs.
C'est là que les modèles à poids ouvert changent la donne. Ils apportent au moins un coût d'inférence de référence, une sorte de prix plancher qui remet un peu de rationalité dans ces indicateurs de prix.
Et ce n'est pas qu'une question de coût, les modèles ouverts offrent aussi de la prévisibilité dans le temps. Si une entreprise veut continuer à utiliser Kimika 2 plutôt que de migrer vers K3, elle le peut. Elle n'est pas captive du calendrier d'un fournisseur.
C'est un double bénéfice, donc pression concurrentielle sur les prix d'un côté et liberté de choisir son rythme d'adoption de l'autre. Deux choses que les modèles fermés ne garantissent pas.
Voilà pourquoi le parallèle avec Kubernetes est intéressant. Comme l'orchestration open source a posé un standard de référence face aux services cloud propriétaires, les poids ouverts posent aujourd'hui une référence pour l'inférence. Et si on faisait tourner un modèle de langage sur une puce à $8? C'est le pari d'un projet open source qui propulse un modèle de 28,9 millions de paramètres sur un microcontrôleur ESP32.
Le résultat, 9,7 tokens par seconde. Les commentateurs sur Hacker News qualifient ça d'amusant, et c'est vrai que sur le papier, c'est presque un exploit.
Le dépôt exploite une astuce d'encodage par couche, et c'est ça qui permet d'atteindre cette vitesse sur un matériel aussi modeste, sans accès réseau.
Un commentateur va même plus loin dans l'imagination. Il suggère qu'en combinant cette approche avec des modèles de synthèse vocale de 20 à 30 millions de paramètres, on pourrait obtenir une lecture quasi en temps réel, le tout depuis un simple ESP32.
C'est fascinant comme perspective, un dispositif à quelques euros, complètement déconnecté, capable de comprendre du texte et de le restituer vocalement, le tout en temps réel.
Terminons avec une autre nouvelle sur le front de l'open source. PyTorch Monarch arrive sur les GPU AMD, avec la prise en charge de l'entraînement distribué à contrôleur unique sur la plateforme ROCm.
L'annonce officielle de PyTorch le confirme, et dans les commentaires Hacker News, un intervenant juge Monarch bien plus léger que Ray, en saluant particulièrement la qualité de ses primitives.
Un autre commentateur rentre dans le concret. Il explique qu'il entraîne des LoRa sur des GPU AMD résidentiels, des cartes grand public donc, pour injecter des schémas de documentation et d'API dans des modèles dont les données d'entraînement sont très obsolètes.
C'est un cas d'usage très parlant, utiliser du matériel abordable sous ROCm pour affiner des modèles avec des connaissances récentes sans avoir à passer par des clusters de calcul massifs. Monarch pourrait bien devenir un outil clé pour ce genre de scénario. General Motors a annoncé un investissement dans la technologie des batteries sodium-ion, d'après un article de Hitriblé Spectrum. L'objectif visé, c'est le stockage stationnaire sur le réseau électrique américain.
Alors concrètement, on ne parle pas de batterie pour véhicules électriques ici. GM mise sur le sodium-ion pour des installations fixes, de grande échelle, connectées au réseau.
Exactement. Et c'est un choix qui s'inscrit dans une dynamique industrielle plus large. Le secteur explore activement des alternatives au lithium pour deux raisons principales, le coût et la sécurité.
Le sodium, il est bien plus abondant que le lithium, donc potentiellement moins cher. Et sur le plan de la sécurité, les chimies sodium-ion présentent un risque d'emballement thermique plus faible. C'est critique pour des installations de grande taille.
C'est ce que rapporte Iprimley Spectrum. GM ne donne pas encore de calendrier précis ni de montant, mais ce positionnement est notable. Le constructeur diversifie ses paris au-delà de la mobilité électrique, directement dans l'infrastructure du réseau.
On change de sujet. Le Guardian a publié un article intitulé « The Growing Vigilant Movement to Knock Out Flock Surveillance Cameras ». Et la discussion sur Hacker News est assez révélatrice des tensions actuelles.
Flock, rappelons-le, c'est ce réseau de caméras de lecture de plaques d'immatriculation qui s'est beaucoup développé aux États-Unis. Des citoyens s'y opposent physiquement en sabotant les caméras.
Et un commentateur sous l'article affirme que si la parole des citoyens est ignorée, alors la voie de l'action directe est la seule qui reste. C'est un raisonnement très frontal.
Il estime que quand la parole est censurée, ignorer les retours des gens rend inévitable des actions physiques comme le sabotage de ces caméras.
C'est un argument qu'on voit revenir dans plusieurs mouvements de contestation technologique. La logique sous-jacente, c'est que si le débat démocratique est perçu comme fermé, certains passent à l'acte.
Et c'est exactement ce que l'intervenant décrit. Il pose une causalité directe entre l'absence d'écoute et le passage au sabotage. Le Guardian documente ce mouvement de vigilante, et la discussion en ligne en amplifie la justification. Passons à un dossier plus gênant pour le secteur des objets connectés. Une recherche publiée sur Arxiv, citée dans un article, détaille des failles de sécurité chez Tile, et le constat est sévère.
Le titre de l'article est explicite. « Tile Security is so bad, it's a feature for stalkers ». En clair, l'insuffisance délibérée de la sécurité rend ces traceurs exploitables pour le harcèlement.
Et derrière Tile, il y a la société Life360. Dans la discussion Hacker News, un commentateur souligne que Life360 a toujours eu pour modèle économique la vente des données de localisation à des annonceurs. Les traceurs ne seraient qu'un moyen de collecter ces informations.
Le même commentateur précise que ces données pourraient être transmises à la plateforme Placer.ai, spécialisée dans l'analyse de données de localisation. On est donc face à tout un écosystème de monétisation.
Et le retour des utilisateurs est déjà là. Un autre intervenant raconte qu'après avoir vu des publicités pour Life360 fondées sur cette exploitation des données, il a purement et simplement supprimé l'application des téléphones de sa famille.
C'est un cas assez net où le modèle d'affaires entre en collision directe avec la confiance des utilisateurs. La recherche ArcGIS 2510.00350 documente ces vulnérabilités et la réaction des utilisateurs, elle, est immédiate, la désinstallation.
Terminons avec Android. Un article de blog publié sur kitsumet.github.io et relayé sur Hacker News révèle qu'Android teste une restriction qui pourrait empêcher d'activer le débogage ADB directement sur l'appareil.
ADB, l'Android Debug Bridge, c'est un outil essentiel pour les développeurs. Aujourd'hui, on peut l'activer localement sur son téléphone, mais une future mise à jour imposerait que l'autorisation soit accordée uniquement depuis un ordinateur connecté.
Et la communauté de développeurs ne l'entend pas du tout de cette oreille. Un commentateur ironise sur la sécurité promise, un autre juge cette approche toxique.
Un intervenant rappelle surtout un point fondamental. Tous les utilisateurs n'ont pas le même modèle de menace. Bloquer l'ADB local, ça protège peut-être certains usages grand public, mais ça pénalise les développeurs et les utilisateurs avancés.
Et un autre regrette l'absence systématique d'un simple interrupteur de configuration. Son argument, le choix de lier ADB à l'hôte local devrait rester libre sur un appareil personnel. C'est la question récurrente de qui contrôle vraiment l'appareil qu'on possède.
Cette restriction n'est encore qu'en test, d'après le billet de blog, mais la levée de bouclier des développeurs montre que le sujet est sensible. Entre sécurité et liberté de bidouiller son propre matériel, la ligne de fracture est nette.
Le billet The Dark Knight of Mathematics et les discussions sur Hacker News posent une question qui secoue la communauté. Que deviennent les mathématiques quand les agents d'IA s'en emparent ?
Un commentateur, Turtliatre, résume le moment avec une formule frappante. Les maths vivent leur moment DevOps. L'idée, c'est que l'automatisation qui a transformé le développement logiciel est en train d'arriver dans le domaine mathématique.
Et un autre intervenant, Sibelius, précise la mécanique. Le savoir réseau approfondi combiné aux agents d'IA rend possible ce qui était auparavant impossible. Ce n'est donc pas seulement une question de calcul, mais de mise en relation de connaissances profondes.
Un troisième commentateur sur Glimop apporte un angle plus cru. Pour lui, les développeurs ont déjà traversé ce choc avec les agents de codage, mais ils ne peuvent pas l'admettre ouvertement. La raison, l'employabilité.
C'est un aveu qui pèse lourd. Admettre que l'IA peut faire le travail, c'est fragiliser sa propre position. Et les mathématiciens seraient-ils dans la même situation ?
Un fragment du commentaire de Jophil va dans ce sens. Il indique que les mathématiciens sont interdits de créer des œuvres originales pour s'exprimer. La formulation est radicale et elle traduit un sentiment de contrainte.
Alors une question de fond se dégage. Est-ce que les mathématiques, comme le code avant elles, sont en train de basculer d'une pratique artisanale vers une production automatisée ? Et si oui, que devient la signature humaine dans la démonstration ?
On quitte l'abstraction mathématique pour entrer dans les coulisses concrètes d'un système d'exploitation. Le billet The Fedora 45 Sausage Factory décrit, de bout en bout, comment l'image du système de fichiers est produite.
C'est une documentation qu'un commentateur juge particulièrement précieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle aide à diagnostiquer des problèmes très fins. L'exemple cité, c'est un changement de permission du répertoire racine entre deux versions de Fedora, référencé sur bugzilla.redhat. Quam sous le bug 2402944.
Ce genre de détail, c'est exactement ce qui fait mal quand on met à jour un système et qu'on ne comprend pas pourquoi certaines choses cassent. Avoir le pipeline documenté permet de retrouver l'étape où le comportement a changé.
Et au-delà de l'aspect technique, il y a une saveur communautaire. Plusieurs intervenants surnomment cette version de Fedora Biffy Miracle. C'est un petit clin d'œil qui rappelle que les distributions Linux ont aussi une âme.
Un autre témoignage ressort dans les discussions, celui d'un utilisateur récent, passé de Windows à Fedora entre 2024 et 2025. Il ne se contente pas d'admirer le produit fini. Il demande où trouver les parties du pipeline de construction qui ont besoin de contributeurs volontaires.
C'est une question intéressante. Quand un nouvel arrivant veut immédiatement contribuer au processus de fabrication plutôt qu'à l'interface utilisateur, cela montre que la transparence du pipeline attire un certain profil de contributeurs.
Et la documentation Sausage Factory répond précisément à ce besoin. Montrer comment les composants s'assemblent, rendre le processus moins opaque et faciliter l'entrée de ceux qui veulent mettre la main dans le code dès les fondations.
On change complètement de registre avec le classement ArcAJ, qui mesure la capacité des modèles d'IA à raisonner sur des problèmes inédits. Et le score qui attire l'attention, c'est celui d'Opus 5.
Opus 5 affiche un écart marqué par rapport au meilleur modèle suivant sur ArcAJ 3. L'écart est net, il saute aux yeux dans le classement.
Mais un commentateur nuance immédiatement la lecture de ces chiffres. Il fait remarquer qu'un score de 30% signifie résoudre seulement les deux premiers problèmes de l'évaluation, et il les décrit comme très simples.
Cette observation soulève une question sur la granularité des résultats. Quand on voit des scores comme 30,2% ou même des résultats entre 0 et 1%, est-ce que ces décimales ont vraiment du sens si elles reflètent si peu de problèmes résolus ?
Et au-delà de la métrique elle-même, c'est la crédibilité du benchmark qui est débattue. Certains participants soupçonnent un possible entraînement des modèles sur d'anciennes questions, ce qui fausserait complètement les résultats.
D'autres rappellent cependant un élément important du protocole. Il existe un jeu de données privées dans ArcAJ, justement pour éviter ce biais d'entraînement. Les modèles ne peuvent pas simplement mémoriser les réponses.
Enfin, une absence est relevée dans le classement, celle de Fable. Le modèle n'y figure pas et la raison n'est pas donnée. Est-ce un choix de ne pas participer ou une impossibilité technique ? La discussion reste ouverte.
Ce que ce classement et ces débats montrent, c'est que mesurer l'intelligence artificielle générale reste un exercice plein d'embûches. Entre la simplicité des premiers problèmes, les soupçons de contamination et les absences inexpliquées, le tableau est plus nuancé qu'un simple podium ne le laisse croire.
Voilà qui clôt notre édition d'aujourd'hui. On a commencé avec l'évaluation conjointe du NIST et de l'UKIZE, une publication qui fixe des repères importants pour la sécurité des modèles. Ensuite, on a parlé du nouvel article d'Anthropic sur les règles d'ingénierie de contexte pour les modèles Claude de 5e génération, un sujet qui touche directement à la manière dont on interagit avec ces systèmes.
Et on a aussi abordé cette résolution générale du projet Debian sur l'usage des grands modèles de langage dans la distribution. C'est une discussion qui montre bien comment les communautés du logiciel libre cherchent à encadrer ces technologies plutôt qu'à les subir. Du côté des curiosités, le projet Chimica 3 qui recrée Windows XP dans le navigateur a retenu notre attention.
Sans oublier le récit sur la gestion d'ingénierie après l'effondrement du coût du code, ni cette comparaison éclairante avec le moment Kubernetes pour les modèles à poids ouvert. On a aussi vu qu'un modèle de langage de presque 29 millions de paramètres tourne désormais sur un microcontrôleur ESP32 à $8. C'est assez fou.
Et puis PyTorch Monarch qui débarque sur les GPU AMD, GM qui investit dans les batteries sodium-ion pour le stockage stationnaire, et cette discussion autour du Guardian sur les mouvements citoyens contre les excès du stationnement automatisé. On a également relevé la révélation de Thiel sur la sécurité délibérément insuffisante de ces dispositifs de localisation.
Enfin, la possible restriction d'Android sur le débogage ADB, le billet sur la nuit noire des mathématiques, la fabrique de l'image système de Fedora 45 et cet écart marqué entre Opus 5 et les autres modèles sur le classement ArcAJ. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour la prochaine édition.